Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantot-Sperber. Que faut-il cacher, que faut-il montrer ? Voile, culture et religion. Que signifie le voile des femmes ? Est-ce un moyen, un signe, un symbole ? Un moyen de s'affilier à une religion, un signe religieux, ou bien un symbole de soumission ? Ces questions ont certes leur pertinence, mais ne faut-il pas aller plus loin et essayer de reconstituer le rôle que joue le voile dans un certain régime de visibilité. Que peut-on montrer ? Qu'est-ce que le voile peut cacher ? Qu'est-ce que l'absence de voile doit révéler ? Dans quelle économie, si l'on peut dire, de la présence publique, de l'apparition publique, le voile s'inscrit-il ? Merci Bruno Nassim Aboudrard d'avoir posé ces questions, d'une certaine manière, dans votre ouvrage « Comment le voile est devenu musulman ?» où vous reliez la question du voile, en tant qu'historien de l'art et historien des représentations, vous reliez la question du voile, et singulièrement du voile des femmes, à une réflexion beaucoup plus ample sur le statut des images et le statut du visible. Qu'est-ce qui est visible dans une culture et qu'est-ce qui est caché ?
Alors, merci de formuler la problématique de mon livre en ces termes. Je pense qu'effectivement que j'ai essayé de faire un livre autant sur le voile que sur des différences de régime de visibilité, des différences culturelles de régime de visibilité. J'insiste sur le caractère construit du visible. Et selon les cultures, le visible peut être la vue, le fait de voir, le regard peut recevoir une peut-être particulièrement privilégiée. C'est le cas dans les cultures hellénistiques puis chrétiennes, où au contraire, il peut y avoir une méfiance à l'endroit de l'organe de la vue. Et il me semble que c'est fondamentalement le cas dans beaucoup de cultures, mais notamment dans la culture musulmane.
Alors, insistons bien sur cette thèse, parce qu'elle est tout de même assez rarement présentée de cette façon, et surtout liée à des phénomènes aujourd'hui qui peuvent rendre énigmatiques pour la culture occidentale certains aspects de la culture musulmane, c'est-à-dire des cultures où le voile est présent, où en particulier le visage des femmes ou les cheveux des femmes sont cachés, sont en général des cultures où on montre peu, où il y a peu de choses visibles, où il y a plus de cachets que de visibles.
Absolument, ce sont des cultures où il y a plus de cachets que de visibles. Dans le Coran, à partir du Coran, les choses me paraissent être relativement claires. Il y a une suspicion qui porte sur la vue. Elle est inscrite dans un des versets du Coran qui enjoint aux hommes de baisser leur regard et aux femmes de baisser leur regard et de revêtir, sinon directement des voiles, du moins des atours pudiques, de cacher leur corps. Car le regard est, pour cette culture, directement lié à la concupiscence, ce que nous connaissons bien. Si la pornographie existe dans nos cultures, c'est bien précisément parce que le regard peut être lié à la concupiscence.
Ah ben ça remonte chez Platon, déjà, on le trouve. Alors, tu veux tuer le désir, rends-toi aveugle.
Alors, chez Platon, on le trouve, mais chez Platon, on trouve aussi l'idée exactement inverse, qui est que le regard est le plus élevé des sens, parce que c'est celui qui permet d'apercevoir la beauté, qui est la plus basse des idées, en quelque sorte.
C'est à la fois l'organe de la perte et de la rédemption.
C'est à la fois l'organe de la perte et de la rédemption. Et il me semble qu'à partir du néoplatonisme, la culture chrétienne, qui pour d'autres raisons, parce que le Christ s'est fait homme et s'est donc montré, s'est montré parmi les hommes, s'est donné à voir, a donné forme humaine à la divinité, c'est plutôt cette seconde idée, l'idée du regard qui permet de s'élever par-delà le visible vers l'invisible, qui a été retenue. D'où, me semble-t-il, dans les cultures de la chrétienté, disons au sens très large, d'une part parfois le culte des images, ailleurs la tolérance pour les images, mais en tous les cas un statut très 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 privilégié donné aux images, mais en plus du statut très privilégié donné aux images, toute une culture, une architecture, un urbanisme, des rituels qui soulignent la précédence donnée au regard dans ces cultures.
Un mot sur la chrétienté, parce que les pays musulmans ne sont pas les seuls où les femmes en particulier ont été voilées. Quel a été le rôle du voile dans la chrétienté, enfin, parce qu'il y a des textes de saint Paul, en particulier le premier épître aux Corinthiens, qui est assez troublant.
Un rôle fondamental, je vais insister sur ce point dans un instant, fondamental et très oublié aujourd'hui. Je suis étonné de la réception que rencontrent mes quelques paragraphes sur cette question, parce que tout se passe comme si beaucoup de gens découvraient ça, alors que c'est quand même dans la première épître aux Corinthiens, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, autrement dit dans un livre que la plupart d'entre nous ont chez eux. Enfin, c'est quelque chose quand même d'assez bien diffusé.
Tradition iconographique, les femmes sont représentées avec
Et dans la tradition iconographique, on voit bien que la Vierge est voilée. Alors, en fait, ça remonte effectivement à cette première épître aux Corinthiens, dans laquelle saint Paul exige des femmes qu'elles se voilent pendant la prière. Et il fonde cette exigence sur le respect de la volonté divine d'une hiérarchie, volonté qui s'exprime lors de la création, quand Dieu décide de créer la femme après l'homme. Et saint Paul interprète ça comme une hiérarchie, donc très clairement comme un signe de l'infériorité de la femme. Cette idée est encore assez discrète et d'une certaine façon embrouillée chez saint Paul, mais elle est absolument clarifiée dans la patristique, tant grecque que latine, mais notamment dans la patristique latine, chez Tertullien, qui consacre un volume entier à la question, un assez gros volume qui a été entièrement conservé, qui s'appelle « Le voile des Vierges » ou « Du voile des Vierges ». Dans lequel il dit que la femme doit se voiler parce qu'elle est inférieure à l'homme, qu'il faut qu'elle le montre. Il conclut sa péroraison, la dernière partie de son traité, en disant « le voile est son joug ».
C'est-à-dire que c'est à la fois un signe d'infériorité et un symbole de soumission.
C'est à la fois un signe d'infériorité et un symbole de soumission. On ne saurait mieux résumer les positions de Tertullien que vous ne le faites. Et on ne trouve pas ça, à ma connaissance en tous les cas, dans la dogmatique de l'islam.
Donc, où trouve-t-on ?
Alors, la dogmatique de l'islam, ce que l'on trouve, c'est une très chétive mention du voile dans la sourate des Coalisés, où il est simplement recommandé aux femmes musulmanes, c'est-à-dire également des femmes libres par opposition aux esclaves, de le porter pour être reconnu et respecté. Alors, reconnu, ça veut dire identifié. Comme musulmane et comme femme libre, par opposition à des esclaves, lesquels, dans ces sociétés, manifestement, pouvaient être assez librement molestés. Et donc, il s'agit pour elles de signaler qu'elles ne peuvent pas être embêtées par les hommes quand elles vaquent à leurs occupations.
Donc, pas de signe religieux, pas de signe de soumission, pas de symbole de soumission, pas de signe d'infériorité.
Pas de signe d'infériorité.
Du moins, dans cette fameuse sourate.
Dans cette fameuse sourate. Ce qui n'empêche pas que, par la suite, les femmes aient été vouées, les femmes de condition, les femmes
qui... Par la suite, c'est-à-dire en fonction d'un texte ou en fonction d'un commentaire ou...
En fonction de commentaires. En fonction de commentaires qui relèvent de la jurisprudence, qui sont des commentaires à la fois nombreux, d'une certaine façon très obscurs, pas traduits. Enfin, on a l'image de ce que peuvent être des lourds grimoires de jurisprudence. Institue en fait beaucoup plus que le voilement l'enfermement des femmes de condition, c'est-à-dire les femmes qui ne doivent pas travailler, qui ne doivent pas sortir pour travailler, c'est-à-dire donc toutes celles qui ne sont pas paysannes, qui ne sont pas esclaves, qui ne sont pas domestiques, qui ne sont pas marchandes,
ou prostituées.
Il reste les femmes mariées, les femmes qui ont les moyens de rester chez elles. Et alors celles-ci sont vouées tout simplement à l'enfermement dans le harem. Et elles ont été enfermées toute leur vie. ne sortant parfois du harem que mortes.
Donc elles sont sans accès à l'espace public, c'est-à-dire sans accès à un régime de visibilité à peu près minimalement ouvert.
Sans aucun accès à l'espace public.
Et alors, donc, d'une certaine manière, elles n'ont pas besoin d'être voilées puisqu'elles ne sortent pas.
Elles n'ont pas besoin d'être voilées et le voile n'est que l'instrument qui leur permet de sortir si elles doivent sortir, c'est-à-dire par exemple si la maison ne contient pas de hammam, de bain, alors elles se voilent pour sortir tôt le matin ou tard le soir à la pénombre et furtivement gagner le hammam, la maison du médecin, de l'accoucheur, que sais-je.
Donc dans ce système-là, inévitablement, ce signe, ce voile devient un signe de soumission, enfin un signe d'infériorité incontestable, enfin de statut différent en tout cas par rapport à l'homme.
Je dirais plutôt qu'il est un instrument de coercition.
Bah parce que même, là c'est l'origine, mais comment expliquer que dans la chrétienté le voile des femmes est à peu près disparu, enfin ça ou encore dans quelques communautés chrétiennes, mais... alors qu'il est, il est resté pour les femmes musulmanes lorsque l'occasion s'en présentait. Nous ne parlons pas encore de l'usage actuel du voile, et c'est votre thèse qui correspond à de toutes vos intentions.
Le voile a disparu, en fait, du monde chrétien, ou quasiment disparu, pas tout à fait, mais quasiment disparu du monde chrétien très tardivement, avec Vatican II, dans les années 50 du XXe siècle.
Ah, le voile pour les religieuses, quand même. Pas le voile pour les autres
jusque-là,
femmes, pas pour les chrétiens.
Jusque-là, les religieuses étaient voilées, et jusqu'à la Révolution, les religieuses ne l'étaient pas. On ne devenait pas forcément religieuse de sa propre volonté. On pouvait être forcé à l'être. Il y a des textes magnifiques à ce sujet, à commencer par la religieuse de Diderot, qui raconte l'histoire d'une femme forcée à être forcée au voile.
Oui, mais ça, ce n'est pas dû à la religion en tant que telle. C'était au système d'oppression et la nécessité de caser les cadettes de famille pour
bien
lesquelles
entendu,
on n'avait pas
mais
à
je
des
pense
pensées
que
de
dot. Le voilement des femmes musulmanes n'est pas non plus dû à la religion en tant que telle, mais à un système d'oppression. Donc, en ce sens, il y a une réciprocité.
Alors, aujourd'hui, on retient l'oppression et on l'attribue à l'islam.
Voilà. Aujourd'hui, on retient l'oppression en oubliant un petit peu notre propre passé relativement récent et on l'attribue de façon un peu unanime à l'islam, alors que les choses sont probablement plus compliquées à bien des égards.
Alors, ce qui est étonnant, et on va venir à votre thèse sur ce que signifie le voile, parce que c'est extrêmement intéressant de considérer que le voile est aujourd'hui l'objet d'une mise en scène, c'est-à-dire d'une extrême visibilité, une visibilité destinée à cacher, mais qui n'a plus rien à voir avec le régime de l'invisibilité qui caractérisait la véritable culture musulmane autrefois.
Je dis parfois qu'il en est une sorte de fossile vivant. On ne peut pas tout à fait dire qu'il n'ait plus rien à voir. Il vient de là, mais comme le régime de visibilité, ou plutôt le régime d'invisibilité ou de discrétion dans la visibilité qui le soutenait, qui le rendait cohérent et qui faisait à la fois que le voile n'était pas vraiment vu, Et servait à ne pas être vu, à telle enseigne que dans tout le Maghreb, il était de la couleur des murs, il était blanc, d'une couleur qui évoque celle de la chaux, de ces murs chaulés des villes traditionnelles d'Afrique du Nord. Et je crois que les femmes dans leur haïk blanc un peu sale, contre les murs blancs un peu sales, par tôt le matin, littéralement, on ne les voyait quasiment pas. C'était presque quelque chose, vraiment une fonction de dissimulation, dans un monde qui privilégiait la dissimulation. Et je fais une toute petite parenthèse pour dire que tant dans mon bouquin que dans le discours, dans le dialogue que je suis en train d'avoir avec vous, je ne voudrais pas que l'on pense que je critique cette... Je n'ai pas une position critique, ni à proprement parler sur le voile, quoique ça, on en reparlera probablement, mais ni sur ce régime de visibilité. Je pense qu'une nacelle du visible, ça a aussi sa dignité, et elle est grande. Hein. C'est bien de voir, c'est pas bien de pas voir,
bien sûr. Non, là, nous essayons de comprendre les raisons profondes qui donnent une cohérence à un système.
Alors, ce régime qui soutenait l'invisibilité du voile n'existe plus. Il n'existe plus notamment parce que le monde islamique est rentré comme le monde entier dans un régime d'image, par la télévision, aujourd'hui par Internet, par tout l'usage qui est fait de la photographie depuis maintenant très longtemps. Et il reste le voile qui, du coup, devient une image, mais une image du refus des images.
C'est étonnant, ça devient une exhibition, une démonstration ostensive de la volonté de cacher, mais pour se montrer, en quelque sorte.
On montre cette volonté de cacher. On conteste, en quelque sorte, de l'intérieur. Elle conteste de l'intérieur. Et c'est aussi intéressant que ce soit des femmes qui soient chargées et qui se chargent elles-mêmes de cette fonction contestataire, c'est-à-dire d'intervenir dans un système de visibilité pour le contester de l'intérieur.
En jouant les règles. Alors ça, c'est pour la présence du voile et dans le monde occidental, parce que c'est clairement un régime de visibilité. Mais j'imagine que dans des régions qui ont été moins exposées à l'influence occidentale et où d'une certaine façon les femmes ont toujours été voilées, où il n'y a pas eu cet acte de se voiler dans un système, dans une société où on peut dire que personne n'est voilé, à ce moment-là, est-ce que ça a toujours la même signification? Est-ce qu'on peut dire que dans ces cultures-là, où il y a une continuité culturelle et même un lien qui a peut-être persisté avec l'ancien régime d'invisibilité, ça a ce sens-là, d'une monstration?
Ça ne l'aurait pas, et je pense que ça ne l'a pas à l'intérieur de ces sociétés, c'est-à-dire que je pense qu'en Arabie Saoudite, par exemple, où les femmes sont assez hermétiquement voilées et où les hommes continuent de porter leur tenue traditionnelle, laquelle comporte aussi à sa manière un voile, mais porte aussi la barbe, etc. Enfin, c'est assez facile de reconnaître un Saoudien dans sa tenue traditionnelle. Donc à l'intérieur de ces sociétés, ça n'a probablement pas tout à fait cette fonction. Mais ces sociétés s'extériorisent parce que ce sont elles qui possèdent la manne financière et donc possèdent des télévisions, possèdent une partie de la capacité d'émettre dans le monde entier, d'émettre des images. Ce sont elles aussi qui rémunèrent, il faut bien le dire, la plupart du temps, les prédicateurs. Alors, soit les sociétés directement d'Arabie Saoudite, soit des sociétés du Golfe qui ne sont pas exactement les mêmes et qui n'émettent d'ailleurs pas les mêmes signes ni les mêmes voiles. Mais comme elles ont pris financièrement et dans le sens vraiment du pouvoir une position de leader aussi dans cette, j'ai pas envie de dire guerre parce que je crois pas que ce soit une guerre, mais plutôt dans cette dialectique mondiale de l'image, dans cette tension, dans cette dynamique mondiale des images, alors en ce sens, il y a constamment une extériorité. Donc je pense effectivement que dans des familles, à l'intérieur des familles, ça ne doit pas être vécu comme ça, mais ce sont aussi des sociétés qui sont parfaitement conscientes de leur rôle mondial.
Plus aucune société n'échappe à cela. Voilà. Mais en revenant à la société occidentale, à la présence spectaculaire des femmes voilées, et même intégralement voilées, dans les sociétés occidentales, une chose est surprenante, c'est aussi ce voile noir qui souvent est porté par des femmes qui sont plutôt reliées à des milieux venus de l'Afrique du Nord. Ce voile noir ne correspond, c'est une importation récente, il ne correspond pas. Vous avez parlé du voile blanc ou du voile blanc cassé ou blanc sale qui est destiné à disparaître contre les murs. Là, il s'agit de tout autre chose. C'est une affirmation d'image redoublée ou une affirmation de monstration redoublée en étant allé chercher, en allant chercher ce voile noir qui ne correspond pas vraiment à la tradition d'où viennent ces femmes.
Oui, c'est un phénomène qui me paraît, vous soulignez un phénomène qui me paraît effectivement très intéressant, c'est cette solution de continuité dans les traditions. Je vous remercie de l'avoir dit, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas écrit en sociologue, je ne raisonne pas en sociologue, et donc je n'ai pas été interrogé une à une ces femmes qui aujourd'hui viennent et non pas reviennent à un voile noir. Je me contente de regarder, d'essayer de comprendre à partir du regard. Et ce que je vois, c'est effectivement une solution de continuité. Elles ne portent pas le voile que portaient leurs aïeuls. Elles portent un voile qui leur est suggéré par l'Arabie. Et encore, pas par toute l'Arabie, parce que c'est un voile plus spécifiquement saoudien, ce voile noir. Et elles le font, alors je ne sais pas avec quel degré de conscience encore une fois, mais ce qui est sûr c'est qu'elles savent ce qu'elles font, elles sont dans un monde d'images qu'elles connaissent et qu'elles maîtrisent aussi bien que vous et moi, et donc elles jouent passivement, activement, je ne sais pas comment, mais elles jouent aussi de la manière dont nous recevons cette tenue noire, et nous la recevons avec une très très grande emphase esthétique, nous surréagissons parce que pour nous, et c'est notre culture, il n'y a absolument pas à aller là contre, c'est le fait, le voile le noir à plus forte raison est un signe extrêmement inquiétant, signe d'un deuil terrible, signe d'une pénitence, c'est quelque chose d'un peu néo-gothique, c'est mi-romantique, on a un million d'imaginaires très, très cinématographiques aussi, où une grande figure noire, voilée, etc. On est dans des châteaux hantés en Angleterre. C'est Lady Macbeth, c'est ce que vous voulez de ce genre.
Je ne sais pas si c'est à ça qu'on pense, mais en tout cas, on est très loin surtout de l'expérience des pays d'Afrique du Nord que beaucoup de Français connaissent, où ce n'est pas comme ça que les femmes étaient voilées. Ce ne correspond pas à nos images, à ce que nous connaissons de l'histoire de ces pays ou de l'expérience que nous en avons eue.
On est très loin de cela, mais je pense aussi que l'on est très loin de la manière dont ce voile noir peut être reçu dans les pays où il a été promu.
Ça c'est problématique. Mais elle se transforme en spectacle. Votre analyse s'ouvre sur un commentaire extrêmement précis d'une photographie qui était peut-être au sens de à des fins de propagande, mais au sens le plus noble du terme, d'un couple. La femme est entièrement voilée de noir, mais en même temps, l'organisation de la photographie réfute à chaque instant ce que ce voile est censé proclamer.
Oui, j'ai essayé de montrer ça, effectivement. C'est une photo qui... En fait, c'est la photo à partir de laquelle j'ai eu envie d'écrire ce livre. Donc, c'est vraiment cette photo-là qui a sollicité ma curiosité, et parce que je me suis rendu compte qu'elle était pleine d'antinomies. Donc, la photo qui était parue dans Le Monde il y a quelques années représente un militant islamiste, Abou Omar, je crois, membre de la confrérie des frères musulmans, et sa femme. Ils sont assis... alors, lui est barbu, il est en kamitz, ses chemises blanches, il regarde le spectateur de façon très fière. Et puis sa femme est entièrement en noir, elle est même gantée, on ne voit pas ses yeux, on ne voit rien.
Oui, mais on a l'impression qu'elle regarde de manière très fière aussi.
On peut penser, mais surtout, elle tient ils se tiennent par lui à la main sur sa cuisse, elle l'entoure, enfin il y a un geste tendre, ils sont dans une chambre. Une chambre d'ailleurs, petite bourgeoise un peu occidentale, avec un cosy en palissandre, des petits nappes en dentelle, etc. Or, le fait de faire image est absolument anti-musulman, même s'ils vont expliquer que la photographie n'est pas une image, on y reviendra éventuellement, mais enfin bon, n'empêche que la photographie est quand même une image, au moins pour l'Occident. Donc, le fait de faire image étant soit anti-musulman, le fait de montrer la tendresse du couple est absolument non-musulman aussi.
C'est avec ces gestes qui sont à la limite de l'impudeur.
Gestes qui sont à la limite de l'impudeur, mais surtout qui sont soit... tel que l'on voit dans la tradition du portrait de matrimonial occidental des couples comme les époux Arnolfini, par exemple, qui se tiennent par la main, ou comme Rubens et sa femme. Enfin, il y a comme ça une tradition de couple dans l'iconographie occidentale. Et puis, cette tradition devient kitsch dans des images de happy end du cinéma hollywoodien.
Parce qu'ils sont assis sur un lit, qui est confortable.
On parlait au début de notre entretien du fait de ne pas visiter, d'essayer de ne pas regarder comment c'est chez les gens. Là, ils montrent leur intérieur dans tous les sens du terme, ils montrent leur intimité. Et on ne peut pas plus anti-musulman que cette image qui pourtant prétend être une sorte d'icône de l'islam, ce qui est une contradiction dans les termes.
C'est tout à fait saisissant, et quand on lit ce commentaire, d'une certaine façon, pardonnez-moi, c'est captatio benevolentiae, on est déjà séduit par la thèse. Alors, vous avez fait une digression, mais qui n'en est pas une, sur la découverte des femmes voilées par le monde occidental, puisque même la France est un pays qui a été un pays colonial, une grande puissance coloniale, dès 1830, contact constant entre le monde occidental et puis toutes ces femmes voilées, et la première pulsion, évidemment, c'est de dévoiler, et même parfois de déshabiller.
Dès 1830 pratiquement, dès le début de la colonisation française en Algérie. J'insiste sur cette date pour préciser, et pas avant. C'est-à-dire qu'avant, on a quand même quelques témoignages sur le regard occidental sur les femmes voilées, et c'est un regard, au contraire, extrêmement bienveillant. Par exemple, la Lady Hamilton, la femme d'un ambassadeur d'Angleterre au divan... à la fin du XVIIe siècle, adore se voiler. Elle copine avec des femmes voilées dans les harems et elle en dit le plus grand bien. Encore avant, il y a des tableaux de Bellini qui représentent des femmes voilées avec une grande bienveillance. Donc le problème commence quand les Français arrivent et où très tôt, Bugeaud a cette phrase que je cite de mémoire et que donc je ne cite pas bien, mais il dit « tant que les femmes musulmanes seront voilées, les musulmans nous échapperont à notre autorité ». Il y a cette idée qu'il faut qu'un peuple colonisé soit sous le regard du colonisateur.
Donc intégré dans le même régime de visibilité, donc négation. l'intégration du régime d'invisibilité.
Je ne sais pas s'il faut dire intégré ou s'il faudrait dire soumis au même régime de visibilité. Parce que là, je crois qu'il y a vraiment l'idée de mettre les gens sous le regard, d'une idée comme ça, un petit peu panoptique, de pouvoir voir les sujets, les nouveaux sujets de la France. Les sujets que la France vient de se donner. Et puis, il y a aussi quand même une dimension érotique, c'est que ces femmes, les colons sont essentiellement des hommes, il manque de femmes, ces femmes qui se refusent à eux, qui se refusent même à leur regard, que l'on ne voit pas, etc. Ça a quelque chose à la fois d'agaçant et d'attirant. Et alors, ça se lit très très bien, très tôt dans la littérature, où ça devient un topos littéraire que de raconter des scènes de striptease, de déshabillage, qui existaient effectivement parce qu'il y avait des prostituées qu'ils faisaient traditionnellement dans des cafés morts. Donc bien sûr qu'il y avait ça, mais c'était très minoritaire, c'était des prostituées. Et là, c'est raconté comme si c'était des femmes normales qui tout d'un coup ôtaient leur voile un à un, dansent des sept voiles, etc., pour se retrouver toutes nues. Et puis surtout, la peinture, cette fameuse peinture orientaliste que nous apprécions tant, multiplie des images au fond extrêmement violentes où l'on voit des femmes être déshabillées. Jérôme appelle ça des ventes d'esclaves. Jean-Léon Jérôme, le peintre pompier, appelle ça des ventes d'esclaves et c'est toujours le même système. C'est un homme qui vient d'arracher son haïk à une femme, laquelle est très belle, les yeux baissés, quelques larmes, la main essayant de cacher son intimité, et deux ou trois clients, très libidineux, très riches, très opulents, matent. Il n'y a pas d'autre expression, de temps en temps avec un face à main, de temps en temps s'approchant, enfin il y a vraiment...
Mais ce sont des scènes invraisemblables, ça. Non, elles sont sans réalité aucune. Parce que toutes ces photographies, ces cartes postales qui étaient très populaires représentant des femmes dévoilées, les femmes arabes, plus souvent dévoilées, c'est en fait que des prostituées.
Bien sûr, elles sont sans réalité aucune. Ça s'appelle marché aux esclaves, alors qu'il n'y avait vraisemblablement plus de marché aux esclaves de ce type, en tous les cas... Il n'y en avait jamais eu, à proprement parler, en Afrique du Nord. Alors, quand c'est de la peinture, il s'agit de fantasmes. Des fantasmes qui ont ceci de quand même un peu désagréable, qui sont présentés comme si c'était la réalité, puisque le peintre est parti. Donc, il y a une sorte de mensonge autour de ça, mais le vrai fantasme, c'est Ingres qui propose. Lui n'a jamais prétendu être parti là-bas. Il le propose dans son peinture.
Donc c'est là aussi, au fond, une intention qui n'est pas sans rapport avec celle que vous aviez évoquée à propos de la mise en scène, en quelque sorte, comme une image et comme un spectacle d'un régime d'invisibilité qui n'a plus de sens, même pour la culture musulmane aujourd'hui. Là, il s'agit de forcer l'invisibilité et de la rendre à tout prix visible dans son aspect le plus humiliant pour ceux qui y sont soumis.
Il s'agit de forcer la visibilité, d'humilier les femmes, de montrer qu'elles sont humiliées avec, là encore, plusieurs régimes. Il y a d'une part de la photo pornographique dont j'explique qu'il y a beaucoup de photos pornographiques autour des années 1900. Il y en a beaucoup en Europe. Elles touchent des prostituées européennes et donc il n'y a pas lieu particulièrement de s'en offusquer. C'est beaucoup plus gênant quand ça devient des cartes postales où les femmes ne sont que seins nus, que dévoilés torse nu, le voile autour d'elles, et où là, les cartes postales sont vendues en bas de chez elles, en quelque sorte. Et elles sont présentées non pas comme des prostituées, mais comme des types ethniques. Maintenant, là où les choses sont un petit peu plus complexes, c'est qu'en même temps que l'image produit ce genre de représentation, la République française, elle, par le code de l'indigénat, protège le voile, protège légalement le voile, parce qu'elle protège le statut musulman de la personne. Et donc, non seulement la République française, la Troisième République, protège le voile, mais elle protège aussi la polygamie, le mariage des mineurs, les mariages forcés, enfin, toutes sortes de choses. Et elle est très en retard par rapport à certaines revendications venant des milieux musulmans les plus ouverts.
Avec quand même des contradictions, puisqu'il y aura des scènes de dévoilement républicain. Mais ça, c'est un autre problème qui n'est pas sans lien avec les polémiques ou les débats sur l'intégration. Merci Bruno Nassima Boundara.
Merci de m'avoir invité.
Entretien. Merci à François Connat qui a réalisé cette émission. Merci à Amandine Grevaux qui était à la technique. Merci à Marie Delquier.
Voilà l'école, le sexe des anges, folle faribole, rixe de mes anges.
Tournoi byzantin, querelle qui frôle,
le tendre et le fascinant sur image pieuse.
Satanique vent d'Arabie heureuse.
La semaine prochaine, nous parlerons de l'influence de la France dans le monde à propos de la publication récente de Michel Fouché à ce sujet. Tout de suite, vous retrouvez Marie Richeux pour Pas la peine de crier. Et à jeudi prochain, si vous le voulez bien, pour un nouveau Question d'éthique. Très bonne semaine à tous d'ici là.